Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons donc notre nouvelle série concernant la sainteté. Et l'étude numéro 3 d'aujourd'hui est intitulée « La sainteté, le thème central de la Bible ». Chers amis, de toute évidence, la sainteté est l'un des thèmes centraux de la Sainte Bible. Le mot « saint » y apparaît près de 600 fois et plus de 700 fois, en comptant les mots dérivés comme « sainteté »,« sanctifié » et « sanctification ». La Sainte Bible n'a pas de sens pour celui qui ne comprend pas que Dieu est saint et qu'il a l'intention de former un peuple saint qui vivra avec lui éternellement dans un lieu saint. Donc, tout le système d'adoration du peuple d'Israël porte sur la sainteté. Alléluia. C'est pour cette raison qu'on y retrouve des personnes saintes, tels que les sacrificateurs, qui portent des vêtements saints sur une terre sainte, Canaan, dans un endroit saint, le tabernacle ou temple, qui utilise des ustensiles et des objets saints, qui célèbrent des jours saints, qui vivent selon une loi sainte, tout cela afin qu'il puisse être un royaume de sacrificateurs et un peuple saint. Fondamentalement, la sainteté est synonyme de séparation. C'est un terme intemporel, qualifier une personne ou une chose de sainte, cela signifie qu'elle est mise à part. Dans l'adresse de Gettysburg en 1863, Abraham Lincoln a déclaré le champ de bataille de la guerre de sécession en Pennsylvanie comme étant une terre sainte. De même, Dieu est saint car il est transcendant et différent de tout ce qu'il a créé. Il est donc à part, il se distingue du reste, il est loin d'être ordinaire, il est Dieu et il est le seul. Ésaïe chapitre 45 verset 22. Nous sommes appelés à être saints car Dieu est vraiment saint. Notez Lévitique chapitre 11 verset 44 et 45. Chapitre 19, verset 2, et la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 15 et 16. Donc, notre Dieu saint nous sépare du reste du monde pour que nous vivions d'une manière qui reflète, bien qu'imparfaitement, sa sainteté. Chers amis, il est important de réaliser dès maintenant que nous sommes en quelque sorte déjà saints en Jésus-Christ. Lorsque les chrétiens parlent de sanctification, ils font généralement référence au processus de croissance vers la piété. Des siècles durant, les théologiens ont fait une distinction entre la justification, la déclaration ponctuelle que nous sommes justes, et la sanctification, c'est-à-dire le processus pour devenir juste. C'est donc une bonne manière de voir les choses, et c'est dans ce même ordre d'idées que sera utilisé le terme sanctification. Toutefois, lorsque le verbe sanctifier ou le nom sanctification est utilisé dans le Nouveau Testament, il fait souvent référence à l'œuvre salvatrice de Dieu qui s'applique déjà à nous parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Selon Hébreux, chapitre 10, verset 10, nous avons été sanctifiés une fois pour toutes grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Dans Actes, chapitre 20, verset 32 et chapitre 26, verset 18, l'expression sanctifié semble être une façon de désigner les vrais chrétiens. Ailleurs, les saints sont ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. Ainsi, l'apôtre Paul compare le fait d'être sanctifié au fait d'être lavé et justifié. Chapitre 6, verset 11 de 1 Corinthiens. Lorsque nous nous unissons à Christ par la foi, il devient notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Je répète, lorsque nous, vous et moi, nous nous unissons à Jésus-Christ par la foi, il, Jésus-Christ, devient notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Chapitre 1 de 1 Corinthiens et le verset 30. Donc, en ce sens, tous les chrétiens sont sanctifiés. Nous sommes déjà mis à part, n'étant plus ordinaires ni profanes. Certains théologiens considèrent ce don de la sainteté par l'union avec Jésus-Christ comme étant notre sanctification définitive. Cependant, cette sanctification définitive n'élimine pas le besoin d'une sanctification progressive et ininterrompue. En Jésus-Christ, chaque croyant a une sainteté positionnelle acquise et avec cette nouvelle identité, chaque croyant est appelé à vivre toute sa vie ce processus de sainteté. Vous pouvez noter Philippiens, chapitre 2, versets 12 et 13. Devrais-je répéter ? Peut-être. En Jésus-Christ, chaque croyant a une sainteté positionnelle acquise. Et avec cette nouvelle identité, chaque croyant est appelé à vivre toute sa vie ce processus de sainteté. Philippiens, chapitre 2, versets 12 et 13. Donc, les croyants sont définitivement consacrés à Dieu afin de vivre une vie sainte et dédiée à sa gloire. En d'autres mots, sanctifié, c'est ce que nous sommes et ce que nous devenons. Qu'est-ce qu'on essaye de devenir exactement, mes chers amis ? Dieu nous a sauvés afin que nous soyons saints. Ça, c'est évident. Nous devons être saints comme Dieu, ça c'est juste. Nous sommes mis à part pour servir Dieu, ça c'est merveilleux. Maintenant, à quoi ressemble la sainteté? Essayons de trouver la réponse dans la stratosphère théologique et de la ramener sur terre, là où nous adorons, travaillons et où nous nous amusons. Je vais d'abord donner quelques exemples de ce que la sainteté n'est pas tellement. Et là, je suis poli. La sainteté ne consiste pas uniquement à respecter certaines règles. Le mot « uniquement » est extrêmement important. La sainteté n'exige pas moins que d'obéir à tous les commandements. Après tout, Jésus n'a pas dit « si vous m'aimez, ne gardez pas mes commandements », il n'a jamais dit ça. Rejetez le christianisme, il a non plus dit ça, et faites tous ce qu'il vous plaît tout simplement. Or Jésus a dit, si vous m'aimez vraiment, vraiment, alors gardez mes commandements. Saint Jean chapitre 14, verset 15. Par conséquent, les saints obéissent. Mais non pas par simple respect de règles. La sainteté est beaucoup plus qu'une morale ou une gentillesse établie. Donc, mes chers amis, cela dit, la sainteté surpasse de loin les valeurs d'une famille de classe moyenne. Il est beaucoup trop facile d'amoindrir le combat de la foi en tentant de parvenir à la sanctification au moyen d'une liste de choses à faire. Donc, se débarrasser de quelques mauvaises habitudes, en développer quelques-unes qui soient un peu meilleures, et voilà, on est bon. Croyez-vous ça? Toutefois, une telle liste morale ne prend pas en considération les idoles du cœur, elle ne prend pas l'Évangile en considération non plus. Ensuite, l'inévitable se produit, la liste de contrôle spirituel vous rend extrêmement sélectif. Elle vous pousse donc à croire que vous avez du succès. Elle pousse à croire que vous avez vraiment beaucoup de succès dans votre sanctification parce que vous restez loin des drogues, que vous perdez du poids, que vous faites du bénévolat à la soupe populaire et que vous mangez bio. Alléluia. Malheureusement, vous avez totalement ignorer la douceur, l'humilité, la joie et la pureté sexuelle. Dieu n'a pas eu de place dans votre cœur, c'est-à-dire pas beaucoup. Je pourrais sans doute vendre 100 000 CD si j'exigeais que les chrétiens lisent leur Bible 2 heures par jour, se débarrassent de leurs téléviseurs, les smartphones, etc., vendent toutes leurs possessions et adoptent 3 orphelins et mettent tout en commun. Nous raffolons des listes. Certains d'entre nous aiment qu'on les frappe, qu'on leur dise exactement quoi faire pour devenir un géant spirituel. À première vue, ce genre d'exhortation semble très prometteur. Mais il s'avère inefficace à long terme. Un simple respect des règles, ça, ce n'est pas la solution, car la sainteté ne peut être réduite simplement à une petite remise à neuf morale. En plus, la sainteté ne consiste pas à imiter d'autres générations. Le bon vieux temps n'était pas toujours bon, et demain, ce ne sera pas beaucoup meilleur. La poursuite de la sainteté ne consiste donc pas à tenter en vain de recréer les années 50 et encore moins les années 90. Bien sûr, les générations passées ont beaucoup à nous apprendre. Je me tourne souvent vers les puritains, les réformateurs ou la génération de mes grands-parents pour trouver des exemples théologiques ou éthiques. Toutefois, apprendre d'eux, cela ne signifie pas qu'il faut parler comme eux, s'habiller comme eux, comme ils le faisaient dans le temps, ou abolir la fête de Noël. Reproduire les jours de gloire d'autrefois n'est donc pas un raccourci pour parvenir à la sanctification. En y réfléchissant, ça améliorerait peut-être les standards publics de la pudeur, ça j'en suis sûr. Mais le bon vieux temps n'était pas vraiment toujours bon en ce qui concerne les relations raciales. Donc, chaque génération a ses angles morts. La sagesse, elle est nécessaire pour apprendre de bonnes choses et éviter les mauvaises. Chers amis, y a-t-il déjà eu une meilleure phrase pour ouvrir la porte à la confusion doctrinale et au relâchement moral que le slogan « C'est tout cela, c'est spirituel, mais ce n'est pas religieux ». À vrai dire, cette déclaration signifie pour certains « Je ne veux pas seulement me contenter d'aller à l'église le dimanche matin, je veux une relation personnelle avec Dieu qui transformera toute ma vie ». Toutefois, la plupart du temps, elle implique un dédain pour les standards théologiques, les absolus moraux et la religion organisée. Dans notre jargon contemporain, être spirituel signifie être ouvert au mystère et touché par les choses spirituelles comme la prière, la guérison et la paix intérieure. Or, la véritable spiritualité, elle consiste à être transformée par le Saint-Esprit grâce à une communion avec le Père et le Fils. Si, voyez-vous, si la spiritualité vous intéresse, eh bien, votre priorité devrait être de progresser dans la sainteté qui vient de l'Esprit Saint. La sainteté, c'est le début absolu du disciple de Jésus. Beaucoup de gens ont abordé le fait de vivre de manière éthique, morale, spirituelle et même pieuse. Mais personne ne semble vouloir aborder le sujet de la sainteté. Chers amis, être sauvé par la grâce transformatrice du Saint-Esprit, être scellé par sa garantie absolue et sanctifié par sa puissance, eh bien voilà, voilà la véritable spiritualité. Amen. Qu'arrive-t-il si l'un de nos instruments joue une mélodie différente de celle du Dieu de l'univers? On nous dit qu'il y avait une bonne personne, certainement en chacun de nous. Oh, qu'est-ce que c'est beau! On nous a montré par des milliers de films que le but de la vie est de trouver le moi intérieur. On nous a appris au travers d'innombrables émissions de télévision que notre plus grande vocation et de croire en nous. Il n'y a plus qu'à faire du yoga. Malheureusement, la sainteté selon le monde, cela ne consiste pas à être trouvé juste devant Dieu, mais plutôt à être fidèle à soi-même. Tout compte fait, être fidèle à soi-même, cela implique toujours de suivre la définition de tolérance et de diversité de quelqu'un d'autre. Donc, nous ne progresserons pas dans notre sainteté personnelle si nous attendons que le monde nous couvre d'honneur pour notre piété. Bien sûr, les valeurs culturelles chevauchent parfois les valeurs bibliques. Dans l'Ouest américain, le racisme n'est pas du tout toléré. Dans les pays musulmans, l'homosexualité n'est pas acceptée. Dans la Bible Belt, il est recommandé de fréquenter assidûment une église. Le monde n'est donc pas une autre façon de désigner les personnes autour de nous. Le monde englobe tout, absolument tout, ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Plus simplement, ce concept regroupe la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Notez 1er épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 16. En d'autres mots, la mondanité est tout ce qui donne l'impression que le péché est tout à fait normal et que ce qui est juste est étrange. Certains peuples et certaines cultures sont meilleurs que d'autres, mais toutes les sociétés sont guidées par le principe de Babylone, oh oui, qui fait la guerre aux enfants de Dieu. Notez Apocalypse chapitre 17 et le chapitre 18. La mondanité est un sérieux problème. La Sainte Bible dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1er épître de Saint Jean chapitre 2 verset 15. Les chrétiens avaient l'habitude de parler de la mondanité et de craindre surtout son influence sournoise. Pourtant, aujourd'hui, si vous parlez de ne pas vous vêtir, de dépenser votre argent ou de vous divertir de façon tout à fait mondaine, eh bien, vous n'aurez droit qu'à un rire à peine étouffé. Nous ne croyons tout simplement pas que être l'ami du monde serait synonyme d'inimitié contre Dieu. Saint Jacques, chapitre 4, verset 4. Beaucoup de chrétiens partagent l'idée erronée que si seulement nous étions de meilleurs chrétiens, eh bien les gens nous estimeraient davantage. Mais il ne réalise pas qu'il y a un coût rattaché à la sainteté. Bien sûr, il est possible de se concentrer sur les vertus prisées par le monde. Toutefois, si vous poursuivez la véritable religion qui prend soin des orphelins et des veuves, en encourage la pureté, Saint Jacques, chapitre 1, verset 27, eh bien, vous perdrez certains de vos amis que vous chérissez tellement. Devenir un sacrifice vivant, saint et acceptable pour Dieu, cela exige que vous résistiez au monde qui tente désespérément de vous presser dans son moule. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Vous garderez pur, ou de vous garder pur pour le mariage, et de rester sobre le vendredi soir, refuser une promotion pour continuer d'assister à votre église, travailler le dimanche, éliminer les blasphèmes de votre vocabulaire et éteindre votre télévision, smartphone, tablette, jeux vidéo, etc., etc., sont des notions que le monde ne comprend pas du tout. N'espérez donc pas autre chose. Dans ce monde, il n'y a rien qui puisse vous aider sur le chemin de la sainteté. Nous avons donc vu 7 exemples de ce que la sainteté n'est pas. Maintenant, passons du côté positif et voyons à quoi la sainteté peut ressembler. La sainteté, c'est le renouvellement de l'image de Dieu en nous. Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, selon la Genèse chapitre 1, verset 26. Mais à cause du péché d'Adam, la race humaine a été corrompue, notez Romains chapitre 5, verset 12, jusqu'au verset 21 du chapitre 5 de Romains. Hein. Nous sommes donc toujours porteurs de son image, notez Genèse chapitre 9, verset 6, et Jacques chapitre 3, verset 9. Or, le but de la sanctification, c'est le renouvellement de cette image. Une personne sainte est renouvelée dans la connaissance d'après l'image du Créateur, Colossiens chapitre 3, verset 10, ce qui implique de croire dans la justice et dans la sainteté, Éphésiens 4, verset 24. Toutefois, cela ne se produit pas du jour au lendemain. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous sommes plutôt transformés à son image, au pas de gloire à la fois. Voyez-vous, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Dieu en a compris. Dieu est saint. Donc, être saint, cela veut dire essayer d'être comme Dieu, comme Yahvé l'Éternel, comme le Dieu d'Israël. Et c'est pour cela qu'il est crucial que les chrétiens connaissent la nature et l'œuvre de celui qu'ils adorent. Si vous voulez savoir à quoi ressemble la sainteté, observez simplement Dieu. La sainteté, c'est une vie imprégnée par la vertu plutôt que par le vice. Comment reconnaître la nature de Dieu dans la vie de son peuple? Eh bien, pour répondre à cette question, nous pourrions consulter tous les commandements et les exemples trouvés dans la Sainte Bible. Il est toutefois bien plus simple d'examiner les vices et les vertus énumérées dans le Nouveau Testament. Et cela résume très bien en quoi consiste la méchanceté et la sainteté. Voici donc, premièrement, les vices qui caractérisent les méchants et tous ceux qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. S'il vous plaît, écoutez attentivement et notez les indications bibliques. Notez Saint Marc chapitre 7, versets 21 et 22, les mauvaises pensées, l'adultère, la débauche, le meurtre, le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Notez maintenant Romains chapitre 1, verset 24 jusqu'au verset 31. Là nous avons l'impureté, les homo sapiens, l'homosexualité, le mensonge, les choses indignes, l'injustice, la méchanceté. l'avidité, la cupidité, la malice, l'envie, le meurtre, la querelle, la ruse, la malignité, la médisance, l'impiété, l'arrogance, l'ingéniosité au mal, la rébellion envers ses parents, l'abstinence d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Notez maintenant Romains chapitre 13, verset 13. Là nous avons les orgies, l'ivrognerie, la luxure, la débauche, les querelles et la jalousie. Notez maintenant 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 et 10. Là nous avons la débauche, l'idolâtrie, l'adultère, l'homosexualité, le vol, la cupidité, les outrages et l'escroquerie. Notez maintenant Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Là nous avons la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et les excès de table. Notez maintenant Colossiens chapitre 3, verset 5 jusqu'au verset 9. Là nous avons la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles équivoques et le mensonge. Notez maintenant 1 Timothée chapitre 1, verset 9 et 10. Là nous avons la méchanceté, la rébellion, l'impiété, le péché, l'irréligiosité, le profane, le parricide, le meurtre, la débauche, l'homosexualité à nouveau, le vol d'hommes, le mensonge, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Notez maintenant Apocalypse chapitre 21, verset 8. Là nous avons la lâcheté, l'incrédulité, les abominations, les meurtres, la débauche, la magie, l'idolâtrie et le mensonge. Et maintenant, chers amis, le genre de vertu qui est trouvé chez le peuple de Dieu. Voyons cela de plus près. Nous avons Romains, chapitre 12, verset 9 jusqu'au verset 21. Là, nous avons l'amour sincère, l'horreur du mal, un fort attachement au bien, l'amour fraternel, l'affection les uns pour les autres, la prévenance réciproque par l'honneur, le zèle, la ferveur d'esprit, le service, la joie en espérance, la patience dans l'affliction, la persévérance dans la prière, la générosité, l'hospitalité, bénir ceux qui vous persécutent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent, avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, ne pas aspirer à ce qui est élevé, être attiré par ce qui est humble, ne pas être sage à ses propres yeux, ne rendre à personne le mal pour le mal, rechercher ce qui est bien devant tous les hommes, être en paix avec tous les hommes, ne pas se venger soi-même, laisser agir la colère et surmonter le mal par le bien. Notez maintenant 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. Là nous avons l'amour, la patience, la bonté, l'absence d'envie, de vandardise et d'orgueil, ne rien faire de malhonnête, ne pas chercher son intérêt, ne pas s'irriter, ne pas soupçonner le mal, ne pas se réjouir de l'injustice, se réjouir de la vérité, excuser tout, croire tout, j'ajoute dans le bon sens, croire tout avec sagesse, espérer tout et supporter tout. Notez maintenant Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Nous avons l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Notez Colossiens chapitre 3, versets 12 à 15. Là, nous avons la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, se supporter les uns les autres, se pardonner réciproquement, l'amour, la paix et la reconnaissance. Notez 2e épître de Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Là, nous avons la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle et l'amour. Comme vous pouvez le constater, mes chers amis, les passages se recoupent et les nombreux thèmes permettent de dresser un portrait détaillé de la sainteté. Ces passages ne précisent pas le temps que nous devrions passer à prier chaque jour, ni la somme à offrir aux pauvres. Les chrétiens mettent souvent la sainteté, l'activisme et les disciplines spirituelles sur le même pied d'égalité. Bien que la sainteté mène effectivement bien souvent à l'activisme et que les disciplines spirituelles soient nécessaires à son développement, eh bien la description de la piété retrouvée dans la Sainte Bible touche davantage notre identité que nos actes. Nous nous dépouillons du péché et nous revêtons la droiture. Nous nous dépouillons des œuvres de la chair et nous revêtons Jésus-Christ. En d'autres mots, nous désirons la mortification du vieil homme et la vivification du nouvel homme. Pour mieux comprendre la sainteté, nous pouvons utiliser une métaphore qui compare la sainteté à la sanctification du corps. La pensée, elle est remplie de la connaissance de Dieu et elle est attachée au bien. Les yeux se détournent de la sensualité et frissonnent à la vue du mal. La bouche, elle dit la vérité et elle refuse d'être vulgaire et de dire du mal de son prochain, surtout derrière son dos. L'esprit est sérieux, inébranlable et doux. Le cœur est rempli de joie plutôt que de désespoir, est rempli de patience plutôt que d'irritation, est rempli de bonté plutôt que de colère, est rempli d'humilité plutôt que d'orgueil et de gratitude plutôt que de convoitise. Les organes sexuels sont purs. Elles sont réservées pour l'intimité du mariage entre un homme et une femme, mais surtout pas entre deux hommes ou entre deux femmes. Les pieds s'approchent des humbles et s'éloignent des conflits absurdes, des divisions et des lieux de débauche. Les mains se hâte d'aider les démunis et de s'unir dans la prière. Voilà donc l'anatomie de la sainteté. Alléluia! La sainteté, c'est donc une conscience pure. Eh oui, nous ne veillons pas sur notre conscience autant que nous le devrions. La Sainte Bible a pourtant bien plus à dire au sujet de la petite voix dans notre tête que nous ne pourrions l'imaginer. L'un des plus grandes ou l'une des plus grandes bénédictions liées à notre justification est une conscience pure devant Dieu. Les accusations du diable sont étouffées et elles sont étouffées par le sang de l'agneau. Je crois que c'est dans Apocalypse chapitre 12, versets 10 et 11. Notez aussi Romains chapitre 8, verset 1 et Zacharie chapitre 3, verset 2. Toutefois, même après avoir été réconciliés avec Dieu, nous devons veiller sur notre conscience. Selon Romains chapitre 2, verset 15, la loi est écrite sur notre cœur afin que notre conscience puisse nous accuser ou nous excuser. Dieu utilise donc notre conscience pour nous parler et lorsque nous négligeons de l'écouter, eh bien nous courons de graves dangers. Bien sûr, notre conscience n'est pas parfaite, surtout la mienne. Il est donc possible d'avoir une mauvaise conscience qui refuse de se détourner du péché, Hébreux chapitre 10, verset 22. Il est aussi possible d'avoir une conscience endurcie, je voudrais jamais cela, qui ne nous culpabilise plus du tout. Quelle horreur ! 1 Timothée chapitre 4, verset 2. Enfin, une conscience peut être souillée au point de ne plus parvenir à distinguer le bien du mal. Notez Tite, chapitre 1, verset 15. Notre conscience ne remplace donc pas la sainte parole de Dieu et ne doit jamais s'y opposer. Une bonne conscience est donc un don de Dieu. Il est essentiel que la conscience du chrétien soit pure. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul, je crois que c'est bien lui qui a dit, je ne sais pas si on va arriver à la fin de notre étude, je l'espère. Qu'est-ce que notre apôtre Paul a dit ? C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Actes chapitre 24, verset 16. Lorsque nous violons notre sens du bien et du mal, même si l'action en tant que telle n'est pas un péché, eh bien nous sommes coupables de péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Romains chapitre 14, verset 23. Cela veut dire que si vous ne croyez pas que ce que vous faites est bien, il n'est pas bien que vous le fassiez. Vous ne devez pas ignorer votre conscience, jamais. Supposons que vous avez grandi en croyant que la consommation d'alcool était mauvaise. Mauvaise au point que vous préféreriez boire un liquide détergent plutôt qu'une bière. Cependant, vous êtes maintenant membre d'une église qui déclare, elle, que boire un peu d'alcool n'est pas du tout un péché, tant qu'on ait l'âge légal pour en consommer et qu'on fasse preuve de modération. Que devriez-vous faire ? Si vous avez la conviction que la Sainte Bible approuve une consommation modérée d'alcool, eh bien vous êtes libre d'en boire. 1 Timothée chapitre 5 verset 23 et notez aussi 5 Jean chapitre 2 verset 1 jusqu'au verset 11. Comme vous le savez tous, aujourd'hui on sait tout cela, que les pays où il y a du soleil, ils sont tout de même nombreux. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de vignes. Et le vin, pour l'instant, le vin n'est pas jeté à la mer. Donc, il y a des millions de gens qui boivent un peu de vin. C'est pareil pour ceux qui mangent de la viande. Tout est dans la modération. C'est pareil pour la pâtisserie, etc. Chers amis, avec le temps, j'ai appris que la manière la plus facile de juger les zones grises de notre vie, que ce soit les films, la télévision ou la musique, consiste à se poser une simple question. Est-ce que je peux remercier Dieu pour cela? Nous devons lui rendre grâce en toutes choses, n'est-ce pas? Je suis allé au cinéma regarder le film à grand succès de l'été, ou il y a longtemps de cela, puisque vous savez que j'ai un très grand âge. Eh bien, c'était une comédie destinée à un auditoire de 13 ans et plus. Et vous diriez probablement qu'elle ne comportait rien de déplacé. Eh bien, pourtant, son contenu s'est avéré sensuel et très sensuel et suggestif à plusieurs reprises. À la fin du film, oui, je l'ai regardé au complet, je me suis demandé, est-ce que je peux vraiment remercier Dieu pour ça? Je tiens à préciser que je ne suis pas un éternel trouble-fête. J'aime aussi rire et j'aime aussi profiter un peu de la vie. Bien sûr, à passer 90 ans, vous avez compris, je dois renoncer aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Je plaisante. Alors, je me demande seulement si nous pourrions, après la plupart de nos divertissements, nous mettre à genoux franchement et dire « Merci Seigneur pour ce beau cadeau ». C'est évidemment un sujet de réflexion. Chers amis, la sainteté, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Déclarer que Dieu préfère la relation aux règles, excusez-moi, la relation aux règles, cela semble tout à fait spirituel, mais ce n'est hélas pas très biblique. Du début à la fin, la Sainte Bible est remplie de commandements. Ils ne servent pas du tout pour gâcher notre relation avec Dieu, mais surtout à la protéger, à la sceller et à la définir. Ne l'oubliez jamais, Dieu a premièrement délivré les Israélites de l'Égypte et ensuite il leur a donné la loi. Le peuple de Dieu n'a pas été racheté par l'observation de la loi, mais afin de pouvoir y obéir. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. 1er épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 3. Nous pourrions discuter toute la journée au sujet de notre amour pour Dieu, mais si nous ne gardons pas ses commandements, nous sommes des menteurs et la vérité n'est pas en nous. Verset 4. Si nous aimons Jésus, eh bien nous garderons sa sainte parole. Saint Jean chapitre 14, verset 23. De la même façon, si vous aimez votre femme, eh bien vous accomplissez vos vœux de fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare. L'exigence de la fidélité, cela ne gâche pas la relation dans le mariage, bien au contraire. elle en témoigne. Pareillement, les commandements de Dieu sont donnés comme moyen de la grâce pour que nous croissions en sainteté et que nous témoignions de notre amour pour lui. La règle de la sainteté, c'est donc la loi, en particulier les 10 commandements. Les chrétiens n'ont pas tous, et oui, c'est vrai, ils n'ont pas tous la même opinion de la loi. Voyez-vous, lorsque un jeune homme riche a demandé à Jésus ce qu'il devait faire pour hériter la vie éternelle, Jésus lui a répondu, « Tu connais les commandements ?» Puis, il a énuméré les commandements de la soi-disant deuxième table de la loi. Saint Marc, chapitre 10, verset 19. Le seul commandement horizontal auquel il a fait allusion, c'est celui de ne pas convoiter. Il l'a mentionné pour mettre en évidence l'avidité du jeune homme riche. Il est vrai qu'en cette occasion, Jésus a utilisé la loi pour son autorité plus que toute autre chose. Mais cela démontre une fois de plus la place occupée par les 10 commandements en tant que résumé de la volonté de Dieu. Notez 1 Timothée chapitre 1 verset 8 à 11. Et on trouve la même chose dans Romains chapitre 13 verset 9. L'apôtre Paul débite à toute allure 4 des commandements et fait référence à ceux qu'il peut encore y avoir. Ce qui est du reste incroyable, c'est que l'apôtre Paul ajoute au verset 8, oui, au verset 8 de Romains chapitre 13, il dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Chers amis, pour terminer cette étude, sachez que la sainteté, c'est aussi l'image de Jésus-Christ. Si la sainteté, c'est l'image de Dieu restaurée en nous, ne soyons pas surpris que la sainteté ressemble également à l'image de Jésus, car Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Selon Colossiens chapitre 1, verset 15, et il est l'empreinte même de sa personne. Notez Hébreux chapitre 1, verset 3. Donc, le but même de notre salut, c'est que nous reflétions l'image du Fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 29. En Jésus, nous avons le meilleur modèle humain et pratique de la sainteté. Il est un modèle par son amour. Saint Jean chapitre 13, verset 34. Par son humilité. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. Par sa façon de traverser l'épreuve. Hébreux chapitre 4, verset 15. Par sa résistance au milieu de la souffrance. Premier épître de Pierre, chapitre 4, versets 1 et 2. Ainsi que par son obéissance au Père. Notez Saint Jean, chapitre 6, verset 38 et chapitre 14, verset 31. Donc, toutes les vertus de la sainteté sont parfaitement alignées en Jésus-Christ. Il était toujours doux, mais jamais faible. Il était audacieux, mais jamais effronté. Il était pur, mais jamais prude. Il était miséricordieux, mais jamais aux dépens de la justice. Il était la vérité, car la vérité était en lui, mais jamais aux dépens de la grâce. En toute chose, il se soumettait à la volonté de son Père, et il a tout donné pour ses brebis. Il a obéi à ses parents, il a gardé la loi de Dieu, et il a pardonné à ses ennemis. Il n'a jamais eu de désir charnel, il n'a jamais convoité, il n'a jamais menti, et dans tout ce que Jésus-Christ a fait, tout au long de sa vie, en particulier vers la fin, il a aimé Dieu son Père de tout son être, et il a aimé son prochain comme lui-même. Si, à un moment de votre vie, vous oubliez les 10 commandements, si vous ne vous souvenez plus du fruit de l'Esprit, ou si vous n'arrivez plus à vous souvenir des attributs de Dieu, vous pouvez vous rappeler ce à quoi ressemble la sainteté simplement en vous rappelant son nom, Jésus le Christ, le Messie. Amen. Et chers amis, j'aimerais, il reste encore un peu de temps, vous dire que Dieu vous aime. Et il est de mon devoir de vous aimer de tout mon amour, de tout mon cœur et de toute mon âme. Et maintenant, je vous embrasse tous et je vous dis oui, oui, il est vrai, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis soyez bénis en et par Jésus-Christ. Prions maintenant. Sainte Majesté, que nous sommes des pauvres pécheurs conçus et nés en iniquité et corruption, enclins à mal faire, inutiles à tout bien, et que nous transgressons sans fin et sans cesse tes saints commandements. Nous acquérons par ton juste jugement ruine et perdition sur nous. Toutefois, Seigneur, nous avons le déplaisir en nous-mêmes de t'avoir offensé et condamnons nous et nos manquements avec vraie repentance, désirant que ta grâce subvienne à notre calamité. Veille donc avoir pitié de nous. Oui, Dieu et Père, toi qui es plein de miséricorde, aie pitié de nous, au nom de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, et en effaçant nos vices et souillures, augmente de jour en jour les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant de tout notre cœur notre injustice, nous soyons touchés de déplaisir, qu'il exige repentance et le pardon, afin que de cela puisse produire les fruits de justice qui te sont agréables par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Et maintenant, j'aimerais vous mettre un ou deux chants d'un assez lointain passé, figurez-vous, 1962. Et là, une grande chanteuse de ce temps-là, qui était Mahalia Jackson, qui faisait partie des églises baptistes des États-Unis, elle a donné un concert au Philharmonic Hall à Lincoln Center for the Performing Arts in New York City on Easter Sunday 1962. Et alors essayons si cela fonctionne. Essayons. Thank you.
lasting, holding my Savior's hand, I shall receive for the rescue, holding my Savior's hand, free from this world and its sorrow, free from all doubts and fear, and I shall rejoice forever, holding my Savior's hand. Oh, I'm holding there is a bomb in Gilead to make the wounded
Spirit.